Bienvenue aux Apatrides Anonymes, 18h32, en direct des studios de choc.ca, émission du 2 décembre 2021. Donc, mon nom est Mathieu, je suis en compagnie de Simon.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Et de Marie-Ève.
Bonjour, bonjour.
Bonsoir, bonsoir. Donc, émission très chargée aujourd'hui. On va parler, entre autres, d'immigration, on va parler de racisme, de sécurité nationale, nos thèmes de base à l'émission. On va avoir, donc, dans ce menu, des nouvelles internationales avec Simon, entre autres, du Qatar.
Et oui, le Mondial s'en vient.
Le Mondial s'en vient, très important. On va avoir aussi des nouvelles d'Amérique latine dans quelques minutes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, Venezuela-Mexique.
Venezuela-Mexique, merci. Marie va nous parler, entre autres, de différents enjeux en immigration au Québec, au Canada.
Oui, oui, je reste sur la scène locale, nationale et canadienne, quoi.
Parfait. Puis le cœur de notre émission va être une entrevue avec deux représentantes de l'ATAP, l'Association des travailleurs travailleuses d'agences de placement, et du Centre des travailleurs immigrants et migrantes, qui vont nous parler de difficultés bureaucratiques, administratives au niveau de la CNSST en lien avec les plaintes d'harcèlement sexuel et psychologique. Assez technique, mais ça va être assez intéressant, je pense, puis assez révélateur. Donc, dans une vingtaine de minutes, on les a en entrevue. Donc, voilà, c'est notre avant-dernière émission de l'année 2021. Il en reste une dans deux semaines. Et puis, on vous reviendra avec des surprises début janvier, c'est promis.
On a déjà hâte.
On a déjà hâte. J'ai pas consulté mes collègues, mais c'est comme ça. On va se renouveler et se renouveler. Donc, voilà, je vais commencer avec une petite nouvelle sur le Chili pour introduire Simon qui va nous parler du Venezuela et du Mexique. C'est un suivi de...
Une petite musique d'introduction.
Ah, notre thème d'introduction, Marie-Ève Maestra. Merci, maestra. J'étais un peu énervé. Donc, Chili.
L'émission n'est pas la même sans nos petits thèmes musicaux.
Eh, voilà, t'as raison, Simon. Donc, on en a parlé il y a deux semaines parce qu'il y avait des élections présidentielles il y a une dizaine de jours et les résultats du premier tour, donc, sont connus. Dans les médias québécois, on en a presque pas parlé. Il a fallu fouiller ailleurs. Mais vous dire que les deux qui iront au deuxième tour, ben, c'est le candidat de l'extrême droite, CAS, qui a eu 28%, et celui de la gauche dite radicale, Boric, qui a eu 26%. Deuxième tour le 19 décembre. Mais on dit que le vainqueur de ce premier tour est tout de même l'abstention, parce qu'il y a seulement eu 47% des personnes inscrites qui se sont exprimées. Et ça a été marqué aussi par l'effondrement de la coalition de droite du président sortant Piñera, dont le candidat Sichel arrive en quatrième position, et aussi la dégringolade de la débâcle, carrément de la concertation, qui est centre-droit, démocratie chrétienne, gauche modérée, qui ont fini cinquième. Le troisième, ben, c'est un certain Franco Parisi, un inconnu, qui dirige le Parti des gens, qui est un mystérieux entrepreneur chilien, mais qui vit en Alabama aux États-Unis depuis des années et qui est jamais venu au Chili faire campagne, donc en 2021, dans les dernières semaines, parce qu'entre autres, il est poursuivi pour non-paiement de pension alimentaire. Un charmant personnage.
Il va gouverner de l'extérieur?
Ben, il a fini troisième, fait qu'il n'est pas au deuxième tour, mais son parti a eu quelques élus au Parlement et ils ont trop de gagné dans le nord du pays parce qu'il a tenu un discours anti-immigration, puis il y a toute la question des Vénézuéliens qui arrivent, bon, etc. Fait que, sinon, vous dire que beaucoup de gens s'inquiètent que si caste de l'extrême droite passe, la nouvelle constitution qui est en train de se faire préparer par l'Assemblée constituante, ça risque de tomber tout simplement, parce que c'est compliqué au Parlement de faire passer des choses, et quand tu as un président qui est d'extrême droite, qui veut rien savoir de changer la constitution héritée de Pinochet, ça peut donner certains résultats comme cela. Donc, voilà, un petit suivi pour le Chili. Simon, je te passe la parole pour d'autres pays d'Amérique latine.
Ouais, mais en tout cas, je pense que les Chiliens vont sortir en masse et aller voter devant ce péril presque fasciste.
Oui, péril noir, oui.
D'autres élections qui avaient lieu dans la région au Venezuela le 21 novembre dernier, mais c'était pas les présidentielles, c'est les élections municipales et les élections de provinces ou d'États, là, dans les 23 États. C'est pas mal les mêmes forces politiques en présence que pour les présidentielles. Donc, en gros, les chavistes de Nicolas Maduro, qui sont au pouvoir actuellement, qui ont remporté une victoire écrasante présente, là, quasi totale, et les autres, dont la gang de Juan Guaido, qui n'ont pas réussi à former d'alliance ou à s'organiser correctement, qui ont rapporté quelques 3-4 sièges sur les 23, je ne me rappelle plus exactement. Mm-hmm. L'enjeu était quand même assez gros, donc si je veux placer ça dans un contexte migratoire, on le sait, le Venezuela, depuis quelques années, c'est l'un des pays dans le monde d'où sortent le plus de personnes. C'est dans le top 3 avec Syrie et Afghanistan, donc c'est pas rien. Mm-hmm. Les Vénézuéliens migrent vers d'autres pays d'Amérique latine. Tu parlais du Chili tantôt, qui essaie de mettre des murs pour empêcher les Vénézuéliens de traverser.
Ouais.
S'en vont dans plusieurs pays d'Amérique latine, mais surtout vers la Colombie voisine, parce que, ben, entre autres, il y a des problèmes économiques très graves au Venezuela, problèmes de sécurité pour la personne, inflation quasiment comme libanaise, là, c'est à peu près la même chose. Chômage, pénurie, ceux-là, les pénuries, on peut les attribuer en partie aux sanctions imposées par les États-Unis et sa cinquantaine d'alliés à travers le monde, dont la Colombie.
Et le Canada.
Ouais. Et le Canada, effectivement, c'est bien de le mentionner. D'ailleurs, il y avait eu un communiqué de presse de Mélanie Joly, une nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui faisait que dire, ben là, c'est une élection frauduleuse encore, avant même que les rapports soient sortis.
Oui, ouais, évidemment.
On n'avait pas reconnu en 2018 la légitimité de l'élection de Maduro dans le cas de la plupart des grandes puissances mondiales. On parlait de fraude massive. Ben, cette fois-ci, on voulait se servir de cette élection-là pour montrer que ben, tout est fait dans les règles. Donc, c'est ça, il y avait des observateurs de l'ONU, de l'Union européenne. Puis on se disait, ben voilà, avec les rapports positifs des observateurs, ce sera peut-être plus difficile pour Washington et les autres de ne pas reconnaître la victoire démocratique des chavistes et on pourra faire lever les sanctions qui affaiblissent le pays et poussent la population à fuir.
Mm-hmm.
Ben, ça se passe pas comme le prévoyait le gouvernement parce qu'il y a un premier rapport qui est sorti cette semaine, celui des observateurs de l'Union européenne, qui note quelques améliorations par rapport à 2018, mais qui rapporte aussi plusieurs irrégularités dans les conditions de vote, l'utilisation d'argent public à des fins électorales, les processus de mise en candidature et aussi l'existence des... Pardon, je sors mon espagnol. Puntos rojos, les points rouges près des bureaux de vote. C'est des genres de checkpoints illégaux qui sont tenus par le parti du président. Puis si on remet ça dans un contexte plus général, préélectoral, ben liberté de presse moyenne au Venezuela, beaucoup de candidats qui ont été menacés, certains qui ont retiré leur candidature. Donc, suite à ce rapport plutôt négatif, Maduro est très, très en colère, très théâtral, comme d'habitude. Il dit que les élections se sont parfaitement déroulées, un des meilleurs systèmes électoraux au monde, et que les observateurs sont des ennemis et des espions. Bref, je vois pas ce qui pourra changer à court ou moyen terme, ni pour l'aspect autoritaire du régime, ni pour l'assouplissement des sanctions internationales. On est un peu dans une impasse, et les présidentielles, c'est en 2025 seulement. Mmh. Donc, les Vénézuéliens sont pas au bout de leur peine. Mexique.
Oui, vas-y,
Simon. OK, on s'en va au Mexique. Une nouvelle qui semble anecdotique, parce qu'on est sur une grosse route migratoire vers les États-Unis au Mexique. Mais c'est une nouvelle qui est surprenante. D'abord, le nombre de personnes qui ont été arrêtées, 600 migrants, qui étaient entassés dans deux camions. Donc, environ 300 personnes par camion. C'est assez hallucinant. Ça s'est pas passé à la frontière États-Unis-Mexique, mais dans l'État de Veracruz, qui est plutôt vers le milieu du pays. Et une nouvelle surprenante aussi, parce que parmi les 600 personnes migrantes arrêtées dans les camions, il y en avait en provenance du Bangladesh, du Ghana, de l'Inde et du Cameroun.
Aïe, aïe.
Ça montre à quel point la route vers les États-Unis peut être de plus en plus longue, compliquée, un peu difficile à comprendre, là, je vous l'accorde. Quelques explications. Ben, l'arrivée régulière en avion aux États-Unis pour des personnes africaines ou asiatiques, c'est tellement contrôlé, encore plus en temps de pandémie, que ça en est devenu pratiquement plus facile et moins cher souvent d'acheter des billets aller simple pour des pays plus au sud, dont les frontières sont moins fermées, pour ensuite monter vers les États-Unis par différents moyens et ensuite déposer une demande d'asile au poste frontière américain ou encore essayer d'entrer de manière irrégulière entre deux postes frontaliers.
Mm-hmm.
Autre explication, pourquoi des migrants africains ou asiatiques arrêtés en plein milieu du Mexique, des personnes qui avaient tenté l'installation dans des pays d'Amérique centrale ou du Sud et dont soit les démarches d'immigration ont échoué, soit l'intégration s'est pas passée comme prévu économiquement ou culturellement, ou encore le rêve américain s'est présenté à eux parce que les réseaux de passeurs sont présents un peu partout avec toutes sortes de techniques dissuasives pour convaincre, là, entre guillemets, les candidats
persuasives,
potentiels. Oui. Ben, ils sont probablement des bons vendeurs, là, le sens du marketing, la formule, ou encore des gens qui entendent parler d'opportunités économiques en plein milieu de leur processus migratoire et ça vient modifier leur plan de base. Donc, je disais récemment, d'ailleurs, dans un article du Washington Post, un phénomène très répandu, ça a l'air, d'un migrant haïtien qui passe par le Chili pour se rendre aux États-Unis.
Oui, oui.
Donc, ce serait peut-être bien de vous reparler de ce phénomène-là. Et en attendant, je conclue en disant que tous les chemins mènent à El Paso. Ou pas.
Ou pas. Merci voilà. beaucoup, Simon, pour ces nouvelles. Quelques notes de musique et Marie-Ève nous arrive pour parler d'enjeux d'immigration Québec-Canada. Marie-Ève, on va enchaîner avec toutes sortes de nouvelles les dernières semaines sur les migrants, les migrantes, les enjeux d'immigration aussi plus généraux.
Oui, puis je vais commencer par une bonne nouvelle, étant donné qu'elles se font rares. Je commence donc par ce l'heureux dénouement dans le dossier de Mamadou Konaté, ce demandeur d'asile originaire de la Côte d'Ivoire qui réside au Québec depuis 6 ans et qui était menacé d'expulsion. Comme c'est souvent le cas, c'est à minuit moins une pour lui aussi que le gouvernement fédéral a fini par lui accorder un sursis 2 jours avant la date prévue de son expulsion. Mm-hmm. Puis comme ce fut le cas aussi pour Firas Bouzgarou, dont je vous parlais début novembre, il semble que ce soit la pression d'organismes comme Amnesty International, mais aussi des oppositions parlementaires, quand même fédérales et provinciales, qui ont fait plier le gouvernement. Bon, le NPD, PQS...
Ont
mis le paquet à la fois dans les coulisses, mais aussi dans l'opinion publique, là, donc dans les médias, pour que Mamadou Konaté reste au Québec. Mamadou Konaté, comme plusieurs autres aussi, comme c'était le cas de d'autres dont on vous a parlé, fait partie des personnes qu'on appelle les fameux anges gardiens, parce qu'il a été agent d'entretien en CHSLD au plus fort de la pandémie de COVID-19, dans les zones rouges même, et où il a lui-même contracté la maladie d'ailleurs, le virus. Le gouvernement fédéral avait refusé de lui accorder le statut de réfugié parce que en Côte d'Ivoire, il aurait fait partie d'un groupe considéré subversif par Ottawa.
Un syndicat?
Ouais, genre de l'opposition, en fait, de régime totalitaire, là, tu sais. Mamadou Konaté, lui, est arrivé au Canada en 2016. Il fuyait la crise politique qui secoue la Côte d'Ivoire depuis la guerre civile en 2011. Il a été exilé d'abord en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, où là, il y avait le statut de réfugié. Mais même si c'est une bonne nouvelle, je rappelle qu'il s'agit pour l'instant, en tout cas, que d'un sursis. Et donc, on sait toujours pas si sa demande d'asile va être acceptée.
Exactement. Donc, il a été beaucoup appuyé par SSF aussi, oui. Évidemment. Oui.
Sur une note un peu, pas mal moins positive, en fait, il y a une famille originaire du Mexique qui a été forcée de trouver refuge dans une église de Sherbrooke pour éviter l'expulsion. Installée à Sherbrooke depuis 3 ans, Georgina Flores, Manuel Rodriguez et leur fils Manolo devaient être expulsés du Canada le 8 novembre dernier. Les trois sont pourtant bien intégrés là, dans la communauté sherbrookoise. Et aussi, en quittant Sherbrooke, le couple aurait laissé derrière lui sa fille Claudia et son mari, ainsi que ses 2 petits-enfants, qui, eux, sont pas visés par la procédure d'expulsion, même s'ils sont toujours en attente de leur propre demande d'asile. Et donc, parce qu'ils étaient ciblés par les cartels de la drogue dans leur ville du nord du Mexique, ils ont tenté de se réfugier au Canada une première fois en traversant la frontière canado-américaine par la voie terrestre avec 4 autres familles. Ça, c'était en 2009. Mais les Rodriguez Flores ont aussitôt été refoulés, sans trop qu'ils sachent pourquoi. Mais donc, de retour au Mexique, les menaces n'ont pas cessé. Le petit restaurant familial qu'ils avaient réussi à ouvrir a même été incendié. Donc, ils sont revenus au Canada en 2018 par voie aérienne cette fois-là. Et Claudia leur fille, qui elle était restée au Mexique, elle a été victime d'une tentative de meurtre l'année suivante, et donc est revenue rejoindre ses parents là quelques temps après. Mais donc malgré ce que je viens de vous raconter, puis je peux aller dans des détails qui sont tous plus sordides les uns que les autres, la décision qui a été rendue le 28 juillet dernier et qui leur a été communiquée seulement le 7 octobre, donc dans sa décision, l'agent d'immigration qui a étudié leur dossier conclut qu'il ne risque, j'ouvre les guillemets, pas d'être torturé ou persécuté, de subir des traitements ou peines cruelles ou inusitées, ou de voir leur vie menacée advenant un renvoi vers leur pays de nationalité ou de résidence habituelle. Donc, le matin du jour prévu de leur expulsion, la famille a appris que sa demande d'appel pour éviter l'expulsion avait été rejetée et qu'elle devait quitter le Canada à 20h30. Donc, devant ce cul-de-sac-là, ben, c'est une amie de la famille qui a fait la demande de sanctuaire auprès de l'Église unie Plymouth Trinity, qui a accepté de les accueillir le temps que leur demande soit traitée pour qu'ils puissent rester au pays de manière légale. Heureusement, la famille peut compter sur un réseau d'amis et de proches là qui veillent sur leur bien-être, leur santé physique et psychologique. Il y a aussi plusieurs personnes et organismes de la communauté gerboucoise qui ont approché l'Église unie pour offrir de l'aide ou des services au cours des derniers jours. Et il y a même Manolo, le fils qui termine son secondaire, qui aurait eu la permission de ses enseignants-enseignantes pour suivre ses cours à distance. Donc, tout ça pour dire, dans le fond, que les cas de Mamadou Konaté et de la famille Rodriguez Flores sont un rappel que la solidarité puis les réseaux de soutien peuvent vraiment faire toute la différence, à la fois dans la vie bien concrète des personnes en attente de statut ou menacées d'expulsion, mais aussi pour rappeler à l'ordre les ministères de l'immigration et l'Agence des services frontaliers.
Et que le Canada n'est pas un beau grand pays d'accueil inconditionnel.
Oui, non, je pense qu'on vous le rappelle assez aux
oui,
deux semaines.
Oui, c'était une tautologie. Ouais,
arrêtez de briser mes rêves.
Oui, Simon. On va aller en musique. Avant l'entrevue avec les deux représentantes de la TAP et du CTI, on va entendre Les Lunatiques, la pièce Trop Radicale. C'est un groupe de Québec, un 4-soir rock garage qui existe depuis 2017, qui ont sorti quelques EP. Leur dernier EP sorti récemment en septembre s'appelle Cash Cash. Je vous rappelle, je vous annonce qu'ils seront à la Nikanski à Québec pour les gens qui nous écoutent dans cette belle région de la capitale nationale le 3 décembre, donc c'est demain. Et ils sont dans le palmarès francophone de choc.ca, donc on y va avec Les Lunatiques. Yeah. Toujours à l'émission Les Apatrides de Zananim sur les ondes de choc.ca. C'était Les Lunatiques avec la pièce Trop Radicale. C'est dans le palmarès donc de choc.ca. Donc, j'ai une entrevue avec deux invités. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Donc, en introduction, vous dire que le 25 octobre dernier, l'Association des travailleurs et travailleurs d'agences de placement, la TAP, a tenu un rassemblement devant les bureaux du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale à Québec dans le cadre de la campagne « Nous avons de la valeur, nous avons des droits et ensemble nous luttons pour notre cause ». Donc, je reçois Noémie Beauvais, organisatrice communautaire au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Bonjour. Et Nina, du comité femme de la TAP. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. C'est notre première entrevue en studio depuis plus d'un an et demi. On est bien content de vous avoir.
C'est
le fun. Donc, on va jaser ensemble de tout ça. En première question très basique, pouvez-vous nous présenter brièvement vos organisations, la TAP et le CTI?
Oui, bien sûr. Mais le Centre des travailleurs immigrants, en fait, c'est un organisme de défense de droits des travailleurs et travailleuses sans statut ou à statut précaire. Donc, c'est un organisme qui a été créé là, en 2000 par un petit groupe de Philippinos qui cherchaient en fait un lieu alternatif là, d'organisation qui n'est pas, disons, dans les locaux des syndicats ou qui n'est pas comme directement chez les personnes. Donc, on cherchait vraiment un lieu plus neutre. Puis, c'est ça. Donc, le CTI offre des services individuels, mais aussi des services disons, d'action collective. Là, on essaye de vraiment regrouper les travailleurs, créer de la solidarité à travers les travailleurs de différents travailleurs et travailleuses de différents groupes. Puis c'est ça, on fait de la mobilisation, on essaie de faire des changements législatifs pour disons, étendre la protection des travailleurs et travailleuses précaires. Puis c'est ça.
Vous sortez dans les médias aussi, vous
Absolument.
Faites de la représentation, beaucoup d'activités autour. Et Nina, pour la TAP?
Oui. Je te parle de la campagne.
OK.
Oui, mais les origines? C'est bon?
Oui, ben oui, vas-y, vas-y.
OK, mais je suis membre de la TAP au CTI et dans notre origine, on était dans une réunion régulière de travail de toutes les femmes dans 2018. Et toutes les femmes, on commence pour parler et finalement, on a vu que nous avons des problèmes d'harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Et ça, c'est un gros problème. Même, il y avait des compagnons qui ne sont pas conscients que c'est un harcèlement sexuel. Ils pensent que c'est normal à cause de sa culture et aussi de les pays qui ont bien. C'est que c'est un peu normalisé et naturalisé, ça. C'est
à cause de leur expérience qu'ils ont déjà eue.
Oui, 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 c'est naturalisé. C'est comme tout le temps, c'est comme normal, mais et à ce moment-là, quand on était en train de parler, on voit que tout le groupe a passé et a suivi des violences sexuelles. C'est comme, oh mon Dieu, ça nous fait vraiment pleurer et ça nous fait mal parce que des fois, on pense que c'est seulement le cas pour un cas exceptionnel ou quelque chose que si n'y apparaît pas sur les médias, la télé ou une grosse information, c'est comme c'est pas grave, mais finalement c'est choquant quand on voit que c'est plein de nous autres qui a passé ça, c'est comme
c'est répandu chez différents employeurs, j'imagine.
Oui, c'est en différents lieux de travail, c'est dans différentes situations, c'est que waouh, c'est vraiment dur pour les femmes d'avoir ça, mais en plus, il y avait des compagnons qui sont des personnes de 50 ans. C'est difficile,
c'est
aussi
difficile,
pour eux, oui.
Ouais, pour elles.
Oui, c'est comme. Et le plus difficile aussi, c'est la naturalisation de la violence.
La normalisation de la violence.
Oui, c'est
ouais,
ça, c'est ça, c'est la normalisation.
Je peux peut-être juste faire une petite parenthèse.
En fait,
c'est ça. Je veux juste revenir un peu sur l'histoire de la TAP. Donc, l'Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement a été créée comme en 2011.
Okay.
Donc, c'est une association qui a été créée comme à partir du CTI. C'est donc les travailleurs et travailleuses qui sont venus, présenter plusieurs fois. Tu sais, comme chaque travailleur venait nous présenter des problèmes en lien avec des agences de placement. Puis, on a décidé de comme un peu regrouper tous ces gens-là. Et puis, les travailleurs eux-mêmes ont décidé de créer cette association-là. Et puis, c'est ça, comme l'expliquait ma camarade Nina, ben c'est ça, il y a eu une réunion où est-ce que on a posé la question à toutes les personnes qui étaient présentes, ben c'est quoi les plus gros problèmes qui sont vécus dans leur milieu de travail, puis on voyait vraiment là, la différence entre les hommes qui vivaient plus des situations, disons, de santé et sécurité au travail, donc pas accès au matériel, accident de travail, ce genre de choses-là, puis toutes les femmes, comme Nina le disait, avaient vécu du harcèlement sexuel. Donc c'est là qu'on a vraiment pris donc conscience à quel point, malgré comme tu sais toutes les situations précaires, en fait les travailleuses sont déjà précaires, mais en plus de ça on rajoute la dimension genrée, donc ça crée comme des problèmes différents. Donc c'est voilà, c'est de ça qu'est née la campagne du groupe de femmes.
Oui, c'est ça, c'est à ce moment là qu'on a pris la décision de lancer notre campagne. Nous avons les valeurs, nous avons les droits et ensemble, nous luttons pour notre cause. Pour la campagne, on a créé des 100 cartes postales pour la SPVM, la Ville de Montréal, le ministère du Travail du Québec et le ministère de l'Immigration et la Sécurité publique et fédérale.
Okay.
C'est que on était vraiment clair à rapport de notre revendication, parce que c'est basé pour tous les témoignages, toutes les choses que on a vécu. C'est les revendications, sont pris de la vie de chacun de nous autres. Mm-hmm. C'est que c'est ça le corps de la campagne.
Puis, vous avez fait donc les cartes postales.
Oui.
Vous avez fait aussi des actions, des sorties publiques, des manifestations.
Absolument, c'est ça. Donc, on a plusieurs une série d'actions. Évidemment, c'est ça. L'idée des cartes postales, c'est de faire des envois massifs donc aux différentes instances que ma collègue a nommées. Puis, c'est ça. Je vais reprendre peut-être un peu les revendications. Là. Donc, évidemment, régularisation des statuts pour tous et toutes. Mm-hmm. Pour nous, ça passe par, en fait, la distribution massive de certificats de sélection du Québec pour toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire québécois.
Pour avoir la résidence permanente.
Pour avoir accès à la résidence, exactement. Puis, évidemment, la mise en place là, d'une carte de citoyenneté municipale dans un contexte de ville solidaire qui a été comme, disons, je sais qu'on en parle plusieurs
annoncé
fois.
Annoncé comme ça.
Oui, c'est ouais, ça. Ouais. On en parle beaucoup sur ce show-ci. Ben, c'est ça. Il y a eu des échecs, disons, liés à ça. Donc, voilà. Puis, on avait aussi, bon, tout ce qui est accès à la justice. Je ne sais pas si Nina, tu veux en parler un peu de...
Oui, mais en rapport de la carte d'identité municipale, c'est ça comme un idéal, c'est un réveil de le groupe, mm-hmm. parce qu'on était qu'à la ville de New York, ça marche,
ouais.
C'est une carte de citoyenneté, ça marche bien pour la ville,
ouais,
et
la
ça
ville
c'est
York, ouais.
qu'on voulait avoir à Montréal, mais malheureusement, non, ça marche bien pour une publicité politique.
Oui, pour des promesses, comme on dit. Hein.
Oui, ouais. C'est ça. Ça marche bien pour les politiciens, mais vraiment, c'est pas prendre sérieusement les problématiques, mais aussi, on voulait aussi, c'est un autre rêve, vraiment, le gros rêve, c'est qu'on pouvait on réveiller pensant que peut-être la police de Montréal arrête de faire comme sa collaboration avec les services de... Migration Canada.
Ouais, ouais. Qui arrête ouais. de collaborer, ouais, oui, tout à fait.
Que dans les statistiques, c'est au Québec qu'ils ont fait plusieurs fois qu'ailleurs de dénoncer les immigrants sans papier.
Exactement, on en avait déjà parlé à l'émission d'ailleurs. Mm-hmm. Ouais.
Absolument.
On va prendre quelques secondes de musique, juste pour que les gens compute tout ça. Et puis, on va revenir avec la deuxième partie de l'entrevue.
OK, merci.
Donc, une partie de votre campagne traite, entre autres, des enjeux de plainte ou pas, possible ou pas, à la CNESST, la Commission des normes de l'équité et de la santé et sécurité au travail, une espèce de grosse patente. Hein? Oui, tout à fait. Vous avez fait une manif, justement, devant le ministère du Travail, entre autres, là-dessus. Donc, parlez-moi un peu de cette démarche-là, puis si vous avez des réponses ou pas des autorités administratives dans ce cas-là.
Absolument. Ben, si je peux commencer peut-être avec les réponses... Quelle surprise, on n'en a pas eu. On s'y attendait.
Ni politique, ni administrative.
Non, effectivement. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, le problème, en fait, qu'on réalise, c'est qu'il y a vraiment un arbitraire quant à, au traitement des plaintes des personnes sans statut. La loi n'est pas tout à fait claire là, sur... parce que, en fait, les personnes sans statut sont... généralement, leurs dossiers vont être traités sous la loi de l'immigration de prime abord. Donc, on commence par la loi d'immigration, puis ensuite, on traite le reste. Donc, c'est ça. Une personne sans statut qui va porter plainte contre son employeur peut être jugée de manière très arbitraire. T'sais, si on demande le statut dès le traitement de la plainte, comme avant même de se rendre au tribunal, ça se peut qu'on abandonne le processus dès le départ. Il y a des situations exceptionnelles qui se sont rendues dans les tribunaux. Mais une fois dans les tribunaux, bon, des fois, les juges vont juste déterminer que, ah non, ton contrat est pas valide parce que, ben, justement, t'as pas le droit de contracter en vertu de la loi sur l'immigration. Donc, il y a tellement d'arbitraires que nous, ce qu'on souhaite, en fait, nos revendications, c'était vraiment que la CNESST arrête, en fait, de contrôler carrément le statut d'immigration des personnes qui portent plainte et puis qui reconnaissent, en fait, la difficulté supplémentaire, en fait, des personnes sans statut quand vient le temps de porter plainte. Donc, c'est super difficile de se rendre. Il y a plein d'études universitaires sur ça, sur le fait qu'il y a tellement d'obstacles à la justice. Mais est-ce qu'on peut reconnaître ces obstacles-là, puis au contraire, valider en fait l'expérience des personnes sans statut? Si une personne se rend au point d'aller dans les tribunaux, c'est parce que son histoire est vraie.
Oui, parce qu'elle a tout à perdre.
Bon. Absolument, ouais. Absolument.
Nina, est-ce que tu es à l'aise de nous parler un peu de ce que tu as vécu?
Oui, bien sûr. C'est que ça me fait mal, mais quand même, c'est la preuve que ça existe. Parce que avant, j'ai travaillé comme préposé et dans mon lieu de travail, je suis passée par l'accélérement sexuel de mon, on peut dire, le chef de travail, c'est mon patron.
Chef d'équipe.
Oui, c'est ça. Et j'ai passé par ça, mais j'ai pas d'option. J'ai supporté ça dans mon travail pendant un an. Mais ça me fait vraiment mal parce que je suis monoparentale. Mm-hmm. À ce moment-là, j'ai ma fille et j'ai arrivé chez moi, j'ai pleuré beaucoup, ça me fait mal. Ma fille me dit qu'elle laisse mon travail. Je ne peux pas parce que le problème, c'est que qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je paye mes factures, mm-hmm. mon logement, tout ça. Mais j'ai suivi une grosse dépression. Ça me fait en plus... la pression de qu'il faut que je paye. Mais finalement, un jour, j'ai laissé mon travail parce que je ne supporte pas la violence, parce que le monsieur commençait pour être violente. Mm-hmm. Et j'ai vécu des violences conjugales chez moi. Okay. Ce que je connais un peu, et c'est comme un flashback qui m'a fait ce jour-là. Et j'ai sorti de mon travail, j'ai quitté le travail, j'ai pris mon manteau et j'ai quitté le travail en pleurant. Vraiment, c'est difficile pour moi. Et en même temps, quelqu'un de mon travail, il m'aidait pour remplir les formulaires, précisément pour mettre les plaintes.
Pour les plaintes, oui.
Mais malheureusement... à ce moment-là, ça a commencé pour se syndicaliser mon lieu de travail. C'est que j'ai fait, c'est pas moi, c'est une amie qui m'aidait parce qu'elle connaît bien comment est-ce que ça marche. Et finalement, j'ai rempli tous les formulaires avec mon ami et mon syndicat. Ils ont refusé ça, mais c'est comme
ils t'ont pas défendu, donc?
Non, okay. Mais aussi, j'ai fait en plein aussi, j'ai rempli les formulaires pour la CNSST. Et ils me sont répondu que c'est mon syndicat qu'il faut qu'ils s'occupent de mon cas. Finalement, il n'y a qu'un fait, rien pour moi. J'ai resté tout seul
Ouais.
Finalement, ni les syndicats, ni la norme de travail. Et ça me fait vraiment mal. Et c'est difficile parce que c'est...
Donc, tu es allé après avec le CTI, tu es allé rejoindre le Centre des travailleurs immigrants?
Pas tout de suite. Après ça, je ne savais pas que le CTI existe en Montréal. Mais quand je tombais, j'ai finalement le chemin pour aller au CTI. C'est comme, waouh, ça m'aide beaucoup. Mm-hmm. Même, ça me fait bien de savoir maintenant qu'on peut peut-être parler de ça et je tiens le soutien. Mais on peut se battre, mais malheureusement, après, il y avait comme un temps depuis de les succès, c'est que comme 12 ans dans la loi, c'est déjà dépassé le temps.
Okay.
Ce ne compte pas, même à ma situation de précarité, c'est comme ma situation de précarité, on peut dire, c'est invisible. Je n'existe pas pour la société.
Ouais.
Et maintenant, il faut que je continue ma vie avec ça.
Avec ça, la situation.
Avec la violence.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on constate, c'est vraiment à quel point le statut, en fait, l'absence de statut force les personnes à rester dans des situations de violence mm-hmm. qui seraient intolérables dans d'autres contextes. Et puis là, dans celui-ci, tu sais, où est-ce que vraiment, il y a clairement une... les gens savaient, les gens étaient au courant, donc tout ça, ça participe en fait à ce système d'oppression-là qui force les personnes sans statut à subir tout ça, puis qui les issues sont vraiment plus limitées à ce moment-là, surtout qu'ils ne sont pas considérés par l'État.
Tout à fait, mais il y a le statut, puis il y a aussi le fait de travailler pour des agences de placement
aussi.
Ça c'est un autre niveau d'insécurité, de précarité.
Ce qu'on constate dans les agences, c'est beaucoup ils ont eu des changements législatifs notamment parce qu'on les avait demandés au CTI avec beaucoup de force, mais c'est ça, il y a un changement législatif qui fait que maintenant les agences de placement sont théoriquement co-responsables avec l'entreprise cliente, c'est-à-dire que s'il arrive un problème au travail, par exemple un accident de travail ou une situation de harcèlement ou peu importe, tant l'agence que l'entreprise est tenue responsable, parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que l'entreprise client disait « Ah, c'est l'agence qui n'a pas donné de formation santé-sécurité, par exemple, donc c'est de sa faute si le travailleur s'est blessé. » Puis là, l'agence répondait « Mais non, mais tu sais, ça s'est passé sur ton lieu de travail, donc c'est ta faute à toi. » Puis finalement, il y avait toujours cette espèce de partie de ping-pong-là, puis il n'y avait jamais rien qui était réglé. Donc là, maintenant, en théorie, ils sont co-responsables, mais... Bon, ça règle pas 100% des problèmes, là. Il arrive encore des situations où est-ce que, même s'ils sont co-responsables dans le cas des personnes sans statut, ils ont toujours pas accès à la justice. Donc, c'est bien cool, mais reste que si on creuse un peu plus, rendu au tribunal, puis qu'on voit que, la personne a un problème sa situation est irrégulière, tout bad, il y aura pas de justice.
Non, t'sais. C'est ça. On va appuyer là-dessus, non pas sur le problème.
Exactement.
Tout à fait.
Exactement.
Le temps nous presse. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour la campagne?
Beaucoup de choses.
Ah oui.
je peux peut-être parler là. C'est ça. Après nos envois massifs de cartes postales, il nous en reste quelques-unes à envoyer là, notamment à la ville et à la police. Donc on a gardé le plus fun pour la fin. Donc dans ce contexte-là, évidemment, on aimerait ça interpeller là, les élus. Valérie Plante qui vient de reprendre son siège sur le trône. Fait que ce serait intéressant peut-être d'essayer de la rencontrer. Ça serait dans nos prochaines actions. Je sais pas si tu veux parler un peu de la coop.
De quoi?
La coop. Bon, sinon, je vais y aller. le comité femmes est aussi en train de partir là, une coopérative de solidarité. Donc, c'est une coopérative de travail.
C'est ça. La coopérative, c'est qu'on est en train de faire des affaires pour le moment. C'est des cadeaux pour Noël. Chacune était capable de faire la coudre, l'autre fait des biscuits. Et c'est comme on commence pour faire ça, pour faire un petit autofinancement pour les groupes et pour nos aider. Et ça, c'est qu'on commence, on a déjà commencé pour créer la page sur Facebook et tout ça pour avoir de l'argent parce qu'on a besoin pour plein de affaires pour nous. Le plus important, c'est la santé, non? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de santé et ça coûte cher aussi.
Puis
on travaille aussi en ce moment sur un projet de documentation. Donc on veut documenter les conditions de travail, les conditions de vie des femmes sans statut surtout. Puis dans le fond, c'est vraiment les femmes sans statut du groupe qui vont faire l'enquête auprès de leur père. Puis on va essayer de comme tout mettre ça dans un beau petit rapport qui va nous permettre de, d'asseoir un peu plus nos revendications là, quand on va aller discuter avec les élus pour parler de régularisation, d'accès à la santé, d'accès à la justice, toutes ces choses-là.
Parfait. J'allais dire un milieu de travail aussi plus sain et moins toxique, hein, évidemment, absolument, pour la coop. Là, donc,
oui, bien sûr.
On peut avoir la chance de porter plainte quand même.
Oui, tout
à fait. Qu'on tient la sécurité et ça la va faire... Port à les ennemis, on peut dire ça, les abusadors
aux
sexuels.
Abuseurs, oui,
oui. Ça, c'est le bas mis d'un point limite. Et ça va être bien, vraiment intéressant que la ville et la loi puissent changer ça.
Parfait. Ben, écoutez, c'est, je pense qu'il y a, il y a une suite, hein. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Puis, merci beaucoup d'être passé. En terminant, pour les gens qui veulent des informations, ils vont sur quelle page, quel site?
Vous pouvez aller sur le site internet du CTI, donc iwc-cti.ca. Puis vous pouvez aussi suivre là, les pages Facebook du CTI avec le même nom. Et puis la page Facebook de la TAP, je crois que c'est au long Association des travailleurs et travailleuses d'agences de placement.
Oui, j'ai vérifié, oui.
Voilà, bon, ça. Merci. J'avoue que j'y vais pas souvent.
Bien, merci beaucoup d'être passé. C'était court. On pourra peut-être s'en prendre une autre fois.
Oui,
puis c'est
fun.
Un sujet
avec
vaste. Oui, vaste et complexe. Donc, merci beaucoup, Nina, d'avoir témoigné avec nous, d'être passé à l'émission.
Merci beaucoup. Merci.
Fait
merci
plaisir.
À vous.
Fait plaisir. Et merci, Noémie, aussi. Donc, on va aller en musique et puis on vous revient pour la suite de l'émission dans quelques minutes. Me fa morire, ma io. On vient d'entendre le projet Crimi, la pièce Sicilia, qui veut dire en sicilien « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Un album sorti en avril dernier qui s'appelle « Luci e Guglie ». C'est le projet de Julien Leruis, qui est un musicien rai de Lyon, avec un trio de jazz et une fanfare sicilienne qui s'appelle « Circa Tusca ». Donc, intéressant comme mix de musique. Et oui. Ça s'est chanté en sicilien.
Puis vous pouvez aller voir la vidéo qui est assez chouette dans les rues.
D'un village de montagne, ouais, là, avec une fanfare.
C'est assez sympathique.
Donc, Crimi, C-R-I-M-I. Donc, on va on va continuer dans les sujets d'immigration, de migrants. C'est pas mal ça le thème de l'émission aujourd'hui. J'avais deux petites informations courtes avant de passer la parole à Marie-Ève. Jean Boulet, l'ineffable ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, député de Trois-Rivières.
Il est-tu beau?
Qui remplace Nadine Giroux, qui est en congé de maladie, jusqu'aux prochaines élections, comme nouveau ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Il n'a pas perdu de temps. Il a tout de suite déclaré que ses nouvelles responsabilités constituent un défi extrêmement intéressant en soulignant les liens entre les dossiers de l'emploi et de l'immigration.
Ben oui, il est vite, hein?
Je le cite, « Pour moi, ça fait partie d'un coffre à outils et ça me permet de répondre de façon plus globale aux besoins du marché du travail au Québec.
» On aime ça, l'expression « coffre à outils ».
Oui, le lien entre l'immigration et le marché du travail, évidemment. Puis il a affirmé, évidemment, qu'il n'est pas question de modifier les seuils d'immigration qui ne bougent pas depuis une couple d'années avec Legault. Donc, voilà pour cette petite nouvelle qui est passée un peu inaperçue dans un mini remaniement là, un peu cheap.
Fait que les immigrants, c'est comme des petits outils, là, c'est ça?
Oui, on peut dire ça, Simon, oui. Et sinon, depuis le 21 novembre, les migrants provenant des États-Unis peuvent à nouveau déposer une demande d'asile en passant par une entrée irrégulière comme le chemin Roxham, qui est fermé ce dernier depuis mars 2020 pour des raisons sanitaires. Donc, Ottawa a modifié son décret. Il stipule dorénavant que toute personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile n'est plus renvoyée s'il passe par un point irrégulier. Et on explique, j'aimerais savoir ça, que lors de la pandémie, une entente avait été conclue avec les États-Unis pour s'assurer que les demandeurs d'asile irréguliers qui seraient temporairement renvoyés auraient le droit de revenir au Canada pour présenter une demande à une date ultérieure.
C'est cela,
il me semble,
oui,
qu'ils ont été tolérés aux États-Unis. Donc, officiellement, cette entente, avec la réouverture de la frontière, cette entente avec les États-Unis a pris fin, mais c'est à vérifier. Et les gens qui ont attendu 2 ans, oui, je suis sûr qu'ils sont encore dans l'État de New York. Marie-Ève, je te passe ta parole.
Ben, on le sait, on l'a vu d'ailleurs avec l'entrevue avec Noémie et Nina. Les personnes migrantes sans papier ou à statut précaire sont vraiment souvent les grandes oubliées, hein, des différents paliers de gouvernement. Et encore plus en temps de crise, on n'a qu'à penser aux élections municipales à Montréal où les questions liées à l'immigration ont été totalement absente.
Ouais.
Et dans les faits, l'idée d'une ville sanctuaire a été vraiment complètement abandonnée.
Ils l'ont dit tantôt d'ailleurs. Hein?
C'est ça. On le sait, c'était l'idée de Nicodère au départ qui avait proposé ça. Mais Valérie Plante quand même, quand elle a été élue la première fois en 2017 sur une plateforme dite progressiste, qui elle a finalement laissé tomber l'adjectif sanctuaire pour une étiquette, on peut le dire, moins chargée de ville responsable et engagé envers toute sa population.
Mmh.
Et même si en 2019, la Ville a lancé une politique d'accès aux services municipaux sans peur, dont le cœur du projet est cette carte d'identité dont justement Nina et Noémie ont parlé tantôt. Donc, une carte qui permet aux personnes de prouver leur adresse, leur résidence, puis surmonter la peur de s'identifier. Bien, ce programme-là se limite quand même encore aujourd'hui aux services municipaux comme les bibliothèques, les piscines publiques et donnent toujours pas accès aux soins de santé.
Par exemple, oui.
Autre exemple, les personnes qui sont détenues au centre de surveillance de l'immigration à Laval n'ont toujours pas le droit à des visites de leurs proches, soi-disant en raison de la pandémie. Pourtant, les visites en personne sont permises dans les 2 autres centres fédéraux de l'immigration gérés par la SFC, celui de Toronto et de Surrey en Colombie-Britannique. Il faut quand même savoir aussi que les visites en personne dans les prisons générales, provinciales, québécoises, sont aussi interdites en raison de la pandémie, mais les visites en personne dans les pénitenciers fédéraux au Québec sont permises.
On reprise, ouais.
C'est ça. Donc, si la plupart des personnes migrantes détenues ont été transférées dans la communauté, là, dans les faits, durant la pandémie, il reste que des dizaines de personnes sont encore détenues par l'agence. Et donc, alors que les mesures sanitaires sont plus souple là, en ce moment et qu'on puisse se regrouper à l'intérieur. Solidarité sans frontières se demande avec raison pourquoi les règles sont différentes pour les personnes détenues et dénonce cette politique de deux poids, deux mesures. Et finalement, si on se tourne vers la Colombie-Britannique, ben là, il y a des centaines de travailleurs agricoles temporaires qui se retrouvent dans l'incertitude la plus totale après avoir été évacués de fermes dévastées par les inondations. Même s'ils sont conduits dans des refuges, la très grande majorité sont non seulement sans contact avec leur employeur, le gouvernement ou leur consulat, mais ils se retrouvent en plus sans argent et souvent sans leur passeport parce qu'ils ont été évacués à toute vitesse.
Ouais.
Et bon, là, on le sait, l'avenir des fermes évacuées est, on peut le dire, incertain, là, ouais, plus qu'incertain.
Inquiétant, oui.
Donc, ils savent pas non plus s'ils vont pouvoir poursuivre ou terminer leur contrat. Donc là, les organisations qui viennent en aide aux travailleurs migrants temporaires craignent que cette situation-là aboutissent à des déportations massives, tu sais, si les gens sont pas capables de finir leur contrat. Puis avec la multiplication des inondations, des sécheresses, on l'a vu avec des feux, etc., en raison des changements climatiques, c'est clair que ce genre de situation-là risque de se reproduire de plus en plus souvent. Et dans ce contexte-là, le groupe Sanctuary Help et le Migrant Rights Network, donc, dont on vous parle régulièrement, croient qu'il est vraiment, il est plus que temps là, que les contrats qui lient les travailleurs à un employeur spécifique soient revus. Et de son côté, la ministre britanno-colombienne de l'Agriculture, elle affirme que légalement, les travailleurs sous contrat doivent être payés et que les contrats doivent être honorés. Sauf que là, comment on peut réalistement exiger ça d'agriculteurs qui ont tout perdu, tu sais? Ouais. Fait qu'en tout cas, ça sera pas simple, mais ça va être à suivre. Puis ça fait un peu ça va un peu dans le même sens. Ça fait un lien avec l'entrevue, justement, de Noémie et Nina, tu sais, sur les conditions des travailleurs puis l'extrême précarité, toujours.
L'extrême précarité, tout à fait. Puis avec des histoires de pandémie, en plus.
Ben
ça,
non, mais
que,
c'est ça.
Non, tout à fait. Fait que, ouais. Ben merci beaucoup, Marie-Ève. Beaucoup. Quelques notes de musique. Et Simon vient faire son dernier bloc sur le 14. Oh. Donc, les derniers moments de l'émission, tranquillement, il nous reste une quinzaine de minutes. Donc, je passe la parole à Simon pour ses actualités internationales.
Le Qatar, dont on parle pas souvent.
Non.
Qui sera l'hôte de la Coupe du monde de soccer, le mondial on dit ça mondial?
En espagnol, sinon le mondial.
Le mondial 2022. Et on construit pas moins de 8 nouveaux stades pour l'occasion dans la région de Doha, mais pas seulement à Doha, dans d'autres plus petites villes aussi.
Mm-hmm.
Le Brésil, la dernière fois, avait fait la même chose. C'était indécent. Au diable les dépenses. Il n'y a pas de pauvreté dans ces pays-là. Là, des super stades de fous un peu partout. Avec le Qatar, ce qui aide à faire baisser les coûts de construction de ces super méga stades ultra-technologiques, c'est l'accès à une main-d'œuvre très, très abordable que permet le système de parrainage de travailleurs étrangers, la CAFALA, qui est commun à beaucoup de pays musulmans, mais qui prend des formes différentes d'une région à l'autre. Il y a Amnesty International qui sonne l'alarme depuis longtemps déjà sur la CAFALA, un peu partout. Nous, on vous avait déjà parlé de la CAFALA au Liban,
ouais,
qui concerne davantage les femmes aides domestiques. Et Amnesty se battait aussi pour ça. Mais dans ce cas-ci, au Qatar, Amnesty appelle à l'abolition complète de la CAFALA et se penche plus dans sa campagne actuelle sur le sort des ouvriers, sur les chantiers pharaoniques des stades de football. On dénonce les difficultés à changer d'employeur. Hein,
on vient d'en parler.
Tout est pareil partout. Même en cas d'abus et de conditions qui n'ont pas d'allure, pour lesquelles il y a à peu près pas de possibilité d'obtenir réparation si on est blessé, par exemple, ce qui est très fréquent sur des chantiers de construction.
Mm-hmm.
Impossibilité de se syndiquer, évidemment.
Évidemment.
On critique le sort des ouvriers. Une fois les chantiers terminés, beaucoup se retrouvent à la rue ou au crochet d'organismes de soutien ou de charité. On les a tellement exploités qu'on les a vidés de leur santé là, une fois qu'ils ont travaillé sur les chantiers
à
50 degrés Celsius.
Ouais.
On dénonce plusieurs décès, mais plusieurs, vous allez voir tantôt, là, qui n'ont pas été bien expliqués parce que les efforts qu'on met pour enquêter sont vraiment sommaires. Donc, décès par accident de travail, coup de chaleur, suicide. Le Guardian faisait état de milliers de morts sur les chantiers du Mondial 2022 depuis quelques années.
Mm-hmm.
Le compte actuellement est à 6500.
Aïe, aïe.
Depuis que le Qatar a été désigné pour la tenue de l'événement. Donc, ça, c'est les chiffres additionnés mentionné qui proviennent des gouvernements indiens, pakistanais, népalais, bangladais et sri-lankais, puisqu'il y a des ententes de mobilité de main-d'œuvre entre les différents gouvernements. Par contre, d'autres pays qui envoient des ouvriers au Qatar, comme les Philippines ou le Kenya, n'ont pas fourni de chiffres sur les décès de leurs ressortissants. Donc, le 6500, c'est seulement les données officiellement comptabilisées. C'est quand même énorme. Pour la construction du stade olympique à Montréal, il y avait eu 7 morts. Au 14, c'est 1000 par stade.
Oui, tout à fait.
Donc, ça vient un petit peu ternir leur petite campagne qatari de sport washing. Je ne sais pas trop comment qualifier ça, qui dure depuis 20 ans avec des Grands Prix de Formule 1, des tournois de l'AFP, etc. Il y a eu quelques réformettes par le gouvernement, réformes sur le salaire minimum, sur la mobilité entre différents employeurs, mais qui sont jugées vraiment insuffisantes et pas vraiment mise en œuvre de manière sérieuse en général. Je vais me permettre un petit éditorial, un peu comme la dernière fois avec les environnementalistes capitalistes.
Oh, j'ai peur.
Donc, vous ferez une petite recherche d'images des stades du Mondial 2022. Vous serez impressionnés par l'architecture spectaculaire. Il faut vraiment souligner. Puis pas juste pour les stades du Qatar, mais toutes les capitales de la région. Oui, Doha, mais aussi Dubaï, Abu Dhabi, Riyad.
Ben oui, on connaît. Ben oui.
C'est le festival du gratte-ciel étincelant. C'est une débauche d'architecture contemporaine. Dubaï, c'est vraiment la championne dans ce domaine-là. Allez voir d'ailleurs les pavillons de l'Expo universelle de Dubaï qui a lieu actuellement.
Okay.
C'est complètement débile. C'est toujours le produit de la CAFALA. Donc, et là où je veux en venir, c'est que dans la grande communauté internationale des architectes ou amateurs d'architecture, tout ce qui gravite autour de ça, là, enseignants, chercheurs, idéateurs, publications spécialisées, on s'extasie beaucoup sur l'architecture contemporaine dans la péninsule arabique ou dans le Proche-Orient, tout ça. Et partout ailleurs où il y a ce genre de miracle économique, la Chine, entre autres, avec des systèmes d'exploitation différents, c'est très rarement dénoncé ou même juste nommé. Donc, on publie des beaux livres de salon, des beaux magazines papier glacé avec des photos
superbes. On donne
des
beaux prix, j'imagine.
On donne des beaux prix, mais on n'explique jamais les conditions dans lesquelles ont été construites ces grosses bébelles rutilantes, là, des gens de Las Vegas sur les stéroïdes. Donc, voilà, moi qui est un grand amateur d'urbanisme, d'architecture depuis toujours, je lis quand même pas mal sur ces sujets-là et ça me frappe à quel point on ignore les problématiques d'esclavage ou de quasi-esclavage. On se palme sur les formes, on fait des beaux articles portraits d'émirs ou de cheikhs et qui commanditent ces projets-là, en les présentant comme des grands visionnaires. Alors, rendez-vous au Mondial au Qatar, non pas à l'été 2022, mais à l'hiver 2022, parce qu'au Qatar, il fait trop chaud pour jouer au soccer l'été. Ils sont pas mal cheap, ils auraient pu climatiser leurs 8 stades.
Ben oui.
Voilà pour le Qatar.
Bon, ben merci Simon. Donc, on retient plus de 6000 morts quand même. C'est complètement fou.
Probablement autour de 10 000.
Oui, dans les vrais, dans la réalité. Donc, merci beaucoup, Simon, pour ce suivi dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Quelques notes de musique et on revient pour l'outro, la fin de cette émission. Donc, c'était vraiment une émission consacrée aux personnes sans statut, aux migrants, migrantes. Il y a une manif dans 2 jours, samedi le 4 décembre. C'est à midi devant le bureau du PM Legault, coin McGill College de Sherbrooke. Je vous lis un petit extrait de l'appel. Ça fait quelques mois que les médias parlent sans cesse d'une crise de la main-d'œuvre au Canada et surtout au Québec. Nous avons une solution très simple, un statut pour tous et toutes. On en a parlé tantôt. Au lieu de nous donner l'opportunité de rester pour combler votre fameuse pénurie de main-d'œuvre, vous préférez nous déporter ou nous forcer à devenir sans papier des travailleurs au noir, facile à exploiter. Donc, c'est quoi dire de plus?
C'est tout est dans tout.
C'est ça. Donc, c'est samedi midi à l'appel de SSF, donc devant le bureau du PM. En terminant, je voulais juste vous dire, vous parler un peu de toute la vague de solidarité d'appui qu'il y a eu pour les Wet'suwet'en. Suite à deux vagues d'arrestations, là, les 19 et 20 novembre dernier, vous en avez entendu parler un peu. Il y a eu des manifs un petit peu partout au Canada. Ce qu'on a peut-être moins su, c'est qu'à Toronto, il y a eu une manif assez intéressante où les gens sont rentrer dans le siège social de TransCanada et ont lu un avis d'éviction à la compagnie pour qu'ils quittent quittent les terres, tu sais, des Wet'suwet'en où il y a le projet pipeline, ce qu'avaient fait les Wet'suwet'en sur place quelques jours avant.
Ouais.
Il y a des manifestants qui ont bloqué la route 6 à Caledonia, nos amis là, de la rivière Grant, les Six Nations. Puis quand il y a eu les 15 arrestations, dont les deux journalistes, là, le 20 novembre, ben la GRC est rentrée dans les cabanes avec des chainsaws et des VIH. Hein, je sais pas si tout le monde a vu les images, quand mais même, oui, c'était assez violent à Coyote Camp, là, qui est le nom du camp là-bas. Et on a su aussi, entre autres, qu'il y a eu un blocage de voies ferrées parmi les dizaines de blocages de voies ferrées de route qu'il y a eu depuis deux semaines. La nation Jitsan en Colombie-Britannique ont bloqué les rails sur leur terre. La GRC a arrêté violemment deux personnes. Ça, on l'a pas beaucoup vu. Et sous le nom de Shutdown Canada, ben évidemment, il y a eu un paquet de manifestations un peu partout, dont à Montréal, là, en fait, semaine dernière. Et peut-être souligner aussi que les gens arrêtés, les 19 et 20 novembre, il y en a plusieurs qui ont passé 4-5 jours en prison. Mm. Ils ont été libérés le mardi, mercredi d'après, dont la porte-parole officielle, Molly Wickham, appelée Sledo, son surnom est Sledo, qui a été relâchée à condition de ne pas se trouver à moins de 75 mètres des chantiers et de l'équipement de Coastal GasLink, même si sur son territoire à elle, on s'entend, là, parce qu'elle est Wet'suwet'en elle-même. Le photojournaliste Amber Bracken et le documentaire, la photojournaliste Amber Bracken et le documentariste indépendant Michael Toledano ont également été libérés sous condition après 4-5 jours de détention. Et ben, peut-être vous dire qu'au niveau international, Leonardo DiCaprio a dénoncé les raids de type militaire de la GRC et que Mark Ruffalo, un autre acteur assez connu, a partagé en ligne une campagne de levée de fonds et a ramassé en deux jours combien d'argent?
Je sais pas, 10 000?
330 000 $ pour les Wet'suwet'en et leur défense juridique.
Mon Dieu, l'étoile de Justin va commencer à pâlir.
Ben écoute, même à Hollywood et à New York, donc c'est sûr que ça devient international, comme ça l'a été au printemps 2020. Et Shutdown Canada, ben commence
à... ça se poursuit, là.
Exactement.
Façon,
puis nous, on était à la manif samedi dernier, il y avait quand même plus de 500 personnes. Et,
malgré le froid, quand même.
Malgré le froid, mais 4 arrestations à la fin, mais ça a été une belle manif dans les rues de Westmont, entre autres. Donc, à suivre, parce qu'il va y en avoir plein d'autres, puis on espère que ça va se répandre un peu partout au Canada. Donc, je termine.
C'est bien dit.
Merci, je fais un mini-éditorial, moi aussi, c'est moi, un mini-appel. Donc, ben voilà, on voulait vous remercier d'avoir été à l'écoute. On remercie encore les représentantes du CTI de l'ATAP pour cette belle entrevue. Et on se reparle dans deux semaines, le 16 décembre à 18h30 pour la dernière émission de 2021 des Apatrides Anonymes.
Yes.
On a une page Facebook, on a un site Internet, on a un courriel. Allez tout voir ça sur notre site apatridesanonymes.info. Et on termine en musique avec un groupe de Toronto qui s'appelle Bad Bad Not Good. La pièce s'appelle Signal from the Noise. Leur album Talk Memory est sorti en octobre dernier, tout récemment. C'est un quatuor qui fait un mélange de jazz et d'indie rock. 6e album depuis 2011. Ils sont en concert au Métropolis de Montréal le 17 décembre prochain. Et c'est dans le palmarès jazz de choc.ca. Donc, on se laisse avec Bad Bad Not Good. Merci, mes camarades.
Merci.
Merci.
Mathieu. Merci, Marielle.
Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Bonne soirée.